France Info.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale des Informés de France Info, parce que nous allons parler football ce soir. Hier, vous avez pu suivre en direct sur France Info la défaite de l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa. Bon, un drame pour de nombreux Français. Alors, pour laver cet affront, nous allons donc reparler de foot ce soir avec, dans quelques minutes, l'annonce de la sélection des 23 joueurs français par Didier Deschamps, ces joueurs qui partiront en Russie pour la Coupe du Monde qui débute le 14 juin prochain. Alors, juste une petite précision, si vous nous suivez, vous savez qu'aux Informés de France Info, on parle politique, on parle économie, on parle international. Mais en matière de foot, bon, voilà, c'est pas vraiment l'émission de référence. Outre une finale de Coupe de Val-de-Marne discutée en 95, qui a sûrement inspiré la victoire de l'équipe de France en 98. Donc, pour préparer cette émission, nous avons appelé l'esprit de Thierry Roland. Nous nous sommes munis du meilleur livre qui soit sur la question, à savoir l'album Panini, officiel de Russie 2018. Et nous avons fait appel, bien sûr, à l'élite également. Et ce soir, nous trouvons pour cette édition spéciale Corne de Brume. On reçoit le directeur des sports de Radio France. Bonsoir, Jacques Vendroux.
Bonsoir.
Également nos consultants, Alain Giresse. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Frédéric Piquion, bonsoir.
Bonsoir.
Également en face, nous trouvons le président de TV5 Monde, Yves Bigot. Bonsoir Yves.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Valentina Clemente, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante à Paris du Corriere dello Sport. Et Jérôme Latta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef des Cahiers du Football et auteur du blog Une balle dans le pied. On parle donc de cette Coupe du Monde dans quelques instants avec la liste des 23 joueurs. Et vu l'ambiance actuelle sur la scène internationale, est-il bon d'organiser une compétition sportive en Russie? On ne sait pas. On verra si les tensions diplomatiques pèsent sur cette Coupe du Monde. Pour l'instant, ça ne semble pas être la priorité de Didier Deschamps, qui, avec son crayon de papier et sa gomme, a réfléchi, a fait un petit soleil dans un coin en haut à droite, repris son ouvrage et a sorti une copie propre. Juste au départ, Jacques Vendroux, cette liste devait être annoncée mardi. Pourquoi finalement, deux jours plus tard?
Je trouve que c'est une bonne idée de la part de Didier Deschamps de l'avoir décalé. Effectivement, c'était mardi. Sauf que personne n'avait imaginé que Marseille se retrouverait, et tant mieux pour Marseille, en finale de la Ligue Europa. Et donc Marseille a joué hier soir et a perdu, vous l'avez dit, contre l'Atlético de Madrid 3-0. Donc pour pas mettre sur la pression sur les joueurs qui pourraient éventuellement être retenus, il l'a décalé à ce soir. Parce que imaginons qu'un Thauvin, qui est retenu, qui n'est pas retenu le mardi soir et qui fait par exemple la finale de l'Europa League le lendemain.
On imagine le manque de motivation.
De motivation et puis déception immense qui peut rejaillir sur toute l'équipe. Donc c'est une bonne décision de la part de Didier Deschamps.
Autre question, Jacques, très pratique. Je suis pas très bon en calcul, mais le foot ça se joue à 11. On se dit normalement il y a 22 joueurs. Pourquoi on dit 23 alors?
Parce que ça, c'est la FIFA qui a pris cette décision il y a environ 7 ou 8 ans de passer de 22 à 23, de donner un joueur supplémentaire. Alors, parce qu'il y a aussi un petit jeu qui est important, c'est que ils peuvent très bien partir avec 22 joueurs du champ et un gardien de but. Trois gardiens de but, c'est les sélectionneurs font ce qu'ils veulent.
D'accord.
Voilà. Ça peut être, je veux dire, c'est pas obligé d'emmener trois gardiens de but, mais la FIFA a décidé d'emmener un joueur supplémentaire.
Alain Giresse.
Ah oui, c'est plus pratique aussi. Vous avez trois gardiens et 20 joueurs de champ. Donc déjà, pour l'entraîneur, c'est plus simple à l'entraînement. Déjà, vous voulez faire des oppositions, vous avez 10-10.
Excusez-moi, mais alors juste, c'est vrai, quand on se dit trois gardiens, on se dit faut vraiment pas avoir de chance quand même, parce que si le gardien est le premier est blessé, que le deuxième soit blessé,
Non, mais ça peut aller vite, hein. Ouais. Ça peut aller vite.
Evigo, oui.
Oui, ça peut aller très vite. Hein. On a déjà eu des exemples, donc effectivement, c'est voilà. On va dire en tous les cas qu'un sélectionneur qui prendrait le pari de pas prendre trois gardiens.
Alors, il y a un côté irresponsable.
C'est qu'il pense qu'il va jouer que le premier tour, en fait. Hein.
Ouais. Oui, c'est ça.
Non, la bonne chose que la FIFA a fait, c'est que les 23 sont concernés par le match, c'est-à-dire que les 11 sont sur le terrain et les 12 autres sont sur le banc de touche.
Valentina Clemente, c'est vrai que vous représentez, vous êtes là aussi, vous êtes correspondante de l'Italie qui n'est pas qualifiée cette année. C'est pas du tout de la perversion, si on vous a invité,
ne vous inquiétez pas. Mais je suis là, je soutiens la France comme un pays qui me représente.
Une chose, on a pu voir un peu partout, là, on va en parler dans un instant avec vous aussi Alain Giresse, comment on vit cette sélection quand on est joueur, mais on le voit en ce moment dans le monde entier, sur les réseaux sociaux notamment, on voit beaucoup de joueurs qui se mettent en scène. On voit vraiment une mise en scène vraiment de l'annonce des joueurs dans le monde entier aujourd'hui.
On l'a vu l'autre jour avec les joueurs brésiliens qui ont fêté chez eux parce qu'il y a Dani Alves qui s'est blessé, donc il y a un heureux remplaçant. Donc oui, ça se vit, ça se partage parce que c'est un moment très important. Donc il faut faire avec toutes ces facettes. Peut-être avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on voit vraiment un vécu à 360 degrés. Donc on verra ce soir aussi des heureux et peut-être des gens un peu moins.
Frédéric Piquion, quand on est joueur, d'attendre ce moment, qu'est-ce qui se passe ce soir là pour beaucoup de joueurs? Ils sont réunis où? Ils se réunissent en famille, en amis, ou au contraire ils sont tout seuls dans leur coin?
Ça dépend comment on peut vivre cette expérience inédite, mais c'est vrai que généralement les joueurs on est plus en famille pour regarder cette liste et attendre la bonne surprise.
Ils sont un peu au courant avant ou pas du tout?
Je pense que le capitaine est au courant un petit peu avant, parce que c'est un joueur quand même important, et certains cadres. Peut-être. Après, est-ce que Didier Deschamps dévoile tout? Sûrement pas, mais je pense que les cadres sont au courant de la liste élargie au moins.
Alain Gérès, non, c'est pas le cas.
Je suis prémesuré. Je suis plus réservé, non, parce que l'entraîneur, sur une liste comme ça, fait son choix à son âme et conscience et va pas consulter les cadres. Il peut consulter les cadres après par rapport à un match, à un système qui leur convient mieux. Mais là, sur ce pouvoir de décision, là, c'est difficile. Et je veux dire, le joueur aussi, le cadre, moralement vis-à-vis d'un coéquipier, aura du mal à prendre une décision.
Alors, Jérôme Lata, forcément, quand on va entendre tout à l'heure l'annonce de Didier Deschamps, il y aura, on va le voir sur les réseaux sociaux, forcément énormément de déçus, puisque nous sommes 67 millions de sélectionneurs. Ça fait toujours, en effet, beaucoup de discussions. Hein.
Oui, 67 millions de sélectionneurs, et puis des centaines de millions de combinaisons possibles avec une liste des 23, si on part de 50 ou 60 joueurs qui sont potentiellement sélectionnés. Donc oui, c'est un rituel. À chaque fois, il y a énormément de polémiques. Il y a quelques malentendus au fondement de ces polémiques. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que ce serait un peu un tableau du mérite qui récompenserait la saison des joueurs, alors que c'est beaucoup plus complexe pour un sélectionneur. Évidemment, il doit composer son groupe en fonction d'aspects psychologiques, pour la vie du groupe, mais évidemment d'aspects tactiques. Et il va également faire appel à différents critères qui peuvent être l'état de forme pour un joueur, qui peut être l'expérience pour un autre joueur, ou qui peut être ses qualités intrinsèques pour un troisième joueur. Donc voilà, c'est vraiment matière à polémique, quoi qu'il arrive.
On va y revenir dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le terrorisme a une nouvelle fois frappé notre territoire. Déclaration du procureur de Paris ce soir en conférence de presse. François Molins a précisé les conditions de l'attaque mortelle de samedi soir, quartier de l'Opéra à Paris. La victime avait une plaie qui correspond à une tentative d'égorgement. Parmi la dizaine de coups de couteau qu'elle a reçus, deux femmes ont été interpellées cet après-midi en région parisienne. Et puis l'ami strasbourgeois du terroriste doit être mis en examen ce soir. Une nouvelle grève à épisode demain et samedi à la SNCF. La direction table sur la circulation demain de plus d'un TGV sur deux, 42% de trains express régionaux et un transilien sur deux. Une grève alors que la consultation initiée par les syndicats pour les cheminots est prolongée jusqu'à mardi prochain. La France et cinq autres pays devant la justice pour leur mauvaise qualité de l'air. Après plus d'une décennie de mise en garde, l'Union européenne renvoie ces six pays devant la Cour de justice et notamment pour manquement à l'obligation de prendre des mesures appropriées. La pollution de l'air tue chaque année 48 000 personnes en France. La Turquie veut présenter à l'ONU une motion sur Jérusalem. Le président Erdogan ne décolère toujours pas vis-à-vis d'Israël. Il souhaite que l'Assemblée générale des Nations unies adopte un texte après les violences survenues à la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu. Et puis il n'y a pas que le football. Le cycliste Sam Bennett s'impose sur le circuit automobile d'Imola. Le coureur irlandais remporte cet après-midi la 12e étape du Giro, le maillot rose de leader est toujours sur les épaules de Simon Yates.
France Info.
France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Bernard.
Édition spéciale sur France Info, car nous attendons là d'une minute à l'autre l'annonce de Didier Deschamps pour connaître les 23 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde en Russie. Ça commencera le 14 juin prochain jusqu'au 15 juillet. Voilà, alors préparez-vous en tout cas, hein, cette Coupe du Monde. Une chose, Yves Bigot, tout à l'heure, Jérôme Lata, parlait de la constitution, comment on constitue ce groupe. C'est pas seulement les meilleurs joueurs français, en fait.
Ah non, c'est le groupe. On a eu le fameux exemple de Eric Cantona, donc qui n'est pas pris par Michel Hidalgo parce que il estimait que c'était l'esprit du groupe, la cohésion. Hein, parce que ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est que la Coupe du Monde, oui, c'est des matchs, mais ça n'est pas que ça. C'est six semaines pendant lesquelles une équipe d'une soixantaine de personnes, donc les 23 joueurs et l'encadrement, vont vivre ensemble. Et on sait d'ailleurs, on en rigolait, hein, Jacques connaît ça par cœur, Alain l'a vécu. On savait que, par exemple, pendant des années, il y avait des pays, alors il y avait les Belges notamment, au bout de 15 jours sans bière et loin du pays, ben, le moral, ça commençait à baisser. Il y avait pareil, les Yougoslaves aussi, magnifiques footballeurs hein, en général, qui vous faisaient les trois premiers matchs formidables. Et puis après, ils commençaient, ils avaient le blues, etc. Puis ça commençait à pas aller. Alors, imaginez, si en plus il y a des tensions, on a connu ça partout, on a connu ça en équipe d'Allemagne, Beckenbauer et Breitner. Et, c'est quelque chose d'essentiel, la vie de cette famille.
Et ça, on a pu le voir, Jacques Vendôme, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais notamment en Afrique du Sud, on a pu voir à quel point c'était important cette cohésion de groupe, que ça pouvait également se fendre en deux. C'est aussi ça que recherche un entraîneur, c'est une amélioration, une ordonnance entre tous ces joueurs.
Non mais en Afrique du Sud, on a été ridicule avec l'affaire Ducard, voilà. Parce qu'il y avait un manque d'autorité notoire de la part du sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech, et surtout du président de la Fédération Française de Football de l'époque, qui s'appelait, et en plus c'est quelqu'un qu'on aime bien avec Alain, c'était Jean-Pierre Escalette. Et où Yves a complètement raison, en 98, Aimé Jacquet s'est retrouvé devant une situation incroyable, c'est-à-dire qu'il avait sans doute Avant que Zidane devienne cette star mondiale, il avait en 1997, il avait deux joueurs merveilleux, David Ginola et Eric Cantona, et il les a pas pris en 98 pour la Coupe du Monde. Vous rendez compte le risque qu'il a pris. Et récemment, eh bien Didier Deschamps se retrouve exactement dans la même situation. Il pourrait prendre Benzema, qui est un merveilleux joueur au Real Madrid. Il aurait pu prendre ou demander à Ribéry de revenir sur sa décision de ne plus jouer en équipe
mais
de France.
Mais c'est quoi, c'est des problèmes de caractère, en fait?
Mais oui, 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 c'est-à-dire que Didier Deschamps ou Aimé Jacquet considèrent... Moi, je connais pas un entraîneur qui ne désigne pas 11 joueurs au départ ou 22 joueurs ou 23 joueurs qui partent en Coupe du Monde en son âme et conscience et dans l'intérêt supérieur du groupe. Ça n'existe pas.
Jérôme Latta, c'est ça aussi, c'est un entraîneur, on se dit toujours, le sélectionneur qui passe son temps pendant je ne sais pas combien de temps justement à regarder les stats de chacun. Il y a aussi cette cohésion psychologique qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que finalement c'est un groupe, c'est le même qui évolue petit à petit, qui grandit ensemble ou pas?
Ouais, je pense. Alors, ce groupe, il est constitué alors par ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire par les matchs de qualification. Donc là, le sélectionneur, il a des informations qu'il utilise. Il a également le vécu des grandes compétitions précédentes. Là, il y a quelques joueurs qui en seront à leur troisième grand tournoi final de suite. Et puis, il y a ce qui va se passer pendant la compétition elle-même. Et c'est vrai qu'un sélectionneur peut avoir des espoirs que sportivement sur le terrain ça se passe bien et que collectivement dans le groupe ça se passe bien aussi, mais il faut qu'il y ait des petits déclics qui se passent aussi et que ça évolue positivement dans le groupe. Alors on parlait des troisièmes gardiens tout à l'heure, qui sont pas très utiles sportivement parce qu'ils ont très peu de chances de jouer, mais ils peuvent être très importants pour mettre un peu d'ambiance.
Non, attendez, faut pas parler que d'ambiance.
Le cohésion psychologique en fait.
Attention,
c'est ça.
Attention, il y a le titulaire en l'occurrence Loris qui est le capitaine. Vous avez les deux autres logiquement qui sont Steve Mandanda et Alphonse Areola. Attention, ils ont un rôle extrêmement important pour donner de la confiance, aux titulaires et participer aux entraînements. Attention,
ils ne viennent pas pour la photo.
Entre les gardiens, je pense bien à Steve Mandanda. Je veux dire, son expérience au niveau de l'équipe de France, mais aussi en général dans les compétitions, ça va être très important pour amener un équilibre aussi dans les moments peut-être difficiles, des cohésions, des préparations. Peut-être quelqu'un qui peut traverser un moment un peu plus complexe dans la préparation. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut aider les copains à sortir de là. Parce que l'entraîneur, il ne peut pas non plus tout faire. Parce qu'il a tout un groupe à gérer.
Alors justement, comment on appréhende cette attente de savoir si on fait partie des 23 ou pas? Et bien justement, la question a été posée à un homme qui, bon, on peut le dire ce soir, hein, je pense Jacques Vendôme sera sélectionné, c'est Kylian Mbappé, je pense qu'il sera en équipe de France. Et bien, il a tout de même réagi, voilà, il est bon joueur, donc on écoute Kylian Mbappé.
Même quand j'étais pas du tout concerné, je regardais, donc je vais regarder. Je m'imaginais, parce que imaginer c'est rêver, donc oui, je rêvais. Mais est-ce que je savais que ça allait être la réalité? Je pense pas aussi vite. L'objectif de la Coupe du Monde, c'est de repousser nos limites. Gagner, tout dépend où on pourra aller. Parce qu'il faut créer une équipe, parce que c'est les équipes qui gagnent des trophées. On va repousser nos limites, on va essayer d'aller jusqu'à ce qu'on puisse plus, jusqu'à ce qu'on soit genoux à terre et on verra où ça nous mène.
Voilà, le joueur du PSG qui a Mbappé. Alain Girès, votre première sélection en équipe de France pour une Coupe du Monde, c'est en
82.
Et alors, comment vous avez appris, vous étiez sélectionné?
Là, il n'y avait pas le cérémoniel qu'il y a aujourd'hui.
C'est ça qui est amusant.
Déjà, la présentation n'était pas la même. Simplement, c'était Michel Hidalgo. Oui, donc, il annonçait ça par médias interposés. Et bah, la première information qu'on avait, c'est par la radio.
Donc
et
vous l'avez découvert, vous étiez en voiture, vous m'avez raconté.
J'étais en voiture, oui. Et donc avec sur la radio qui annonçait l'équipe de France. J'ai, tiens, voilà. Ah, j'y suis. Mais bon, sur cette première Coupe du Monde, j'avais 60% de certitude. Voilà.
D'accord.
Mais j'attendais les 40%. Voilà. Quand j'ai entendu le nom, j'ai dit c'est bon, c'est validé. Voilà. Et puis après, on a nos collègues nos coéquipiers en club qui sont sur la limite, sur la tangente, parce que tout le monde n'est pas concerné de la même façon. Vous venez parler de Kylian Mbappé, ouais. Ce soir, il ne va pas avoir le stress.
D'accord.
Et, ouais. Il ne va pas être très stressé. Il y en a d'autres qui sont dans l'incertitude. Il y en a, bon, Griezmann non plus, je veux dire, il ne va pas...
Il ne va pas paniquer ce soir.
Non, je ne pense pas que Griezmann il soit dans tous ses états. Voilà, il y a ces catégories de joueurs. Et puis il y en a d'autres, des incertains qui sont là et qui vont être à l'écoute et qui attendent la bonne nouvelle.
Mais on le prend comment? C'est-à-dire, on le prend comme une consécration de son travail? C'est-à-dire, on se dit quand même, rien que d'être sélectionné, même si on perd au premier tour, c'est quand même ou pas?
Non, bonheur.
Ouais.
Non, c'est du bonheur, c'est du plaisir. C'est dire, je vais faire la Coupe du Monde, je vais faire une Coupe du Monde. Voilà, c'est l'aventure, la grande aventure de la Coupe du Monde qui est lancée. C'est à ça que l'on passe, c'est un rêve qui se réalise. Voilà, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver pour lancer sa Coupe du Monde.
La Coupe du Monde. Yves Bigot, quand on entend quelqu'un comme Kylian Mbappé qui a, je sais pas, 20 ans, je crois, et voilà, et qui dit, oui, qui est né en 98, voilà, qui est né en décembre 98, donc il a même pas
19.
Vu la France gagner, voilà, voilà, la Coupe du Monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il dit, moi, je regardais ça à la télévision avant, même quand je ne jouais pas. Ça veut dire que ça représente même ce moment, représente pour tous les footballeurs.
Ben, c'est un rêve parce que c'est une aventure. Là aussi, il faut bien voir ce que ça représente dans la réalité. Bien sûr, il y a le rêve de gagner la Coupe du Monde, il y a d'y participer. Mais c'est l'aventure de vivre aussi ça. Alain, vous l'avez vécu à plusieurs reprises. C'est un truc, et ça vaut pour les euros aussi.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un moment dans la vie, vivre ces 6 semaines-là dans un groupe avec les équipes qu'on rencontre. Peut-être, il y a en Coupe du Monde, il y a des équipes qu'on va rencontrer qu'une fois de sa vie, par exemple aussi. C'est une aventure. Et puis, il y a des rebondissements. Ça se passe jamais comme on s'y attend. Mais c'est une vie pendant 6 semaines. Il n'y a pas que les matchs.
Donc, il n'y a pas que les matchs. Il y a aussi ça, cette aventure qu'on va chercher.
Donc, c'est une aventure extraordinaire de jouer une Coupe du Monde.
Valentin Lacaventé.
Non,
même si on
ne joue
pas à la limite, hein, quand on est dans le groupe. Pardon, être juste dans les 23.
Allez, Valentin Lacaventé.
Non, c'était juste que l'autre jour, j'avais demandé, moi, directement à Kylian Mbappé au trophée UNFP et qu'est-ce que ça va représenter. Vraiment, il a dit, c'est un rêve qui devient réalité. Et ça, c'est, vous voyez qu'il sentait vraiment ces moments et qu'il n'attendait pas le temps d'être en Russie.
Allez, dans quelques minutes, on devra avoir justement le nom de ces joueurs puisque Didier Deschamps est en train de parler. En attendant l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Édouard Philippe soutient et soutiendra toujours Nicolas Hulot. Le chef du gouvernement le répète ce soir sur France 3, alors que son ministre de la Transition écologique dira en début d'été s'il entend rester ou pas au gouvernement. Un an au pouvoir et une trentaine de ministres sont ce soir sur le terrain dans plusieurs villes de France afin de promouvoir l'action gouvernementale. Elisabeth Borne, par exemple, parle des transports à Toulouse. Gérard Collomb est à Rungis. Bruno Le Maire a quitté Bercy pour le Gers. Deux jeunes femmes proches du terroriste du quartier de l'Opéra ont été interpellées aujourd'hui en région parisienne. Khamzat Azimov a été abattu samedi dernier après avoir tué un passant et blessé 3 autres. Le procureur de Paris le précise ce soir. L'ami de l'assaillant, habitant de Strasbourg, doit être mis en examen ce soir après son interpellation dimanche. Un homme qui nie toujours toute implication. Le détenu fiché S et évadé de Brest est toujours introuvable. Cet homme radicalisé de 21 ans a réussi hier à profiter de son transfert à l'hôpital. Le propriétaire de la voiture qu'il a récupéré est mis en examen ce soir. Un homme qui s'était rendu de lui-même hier aux forces de l'ordre. Dans le Pays Basque, ce pharmacien d'Anglet aurait escroqué la sécu d'1 200 000 euros. Le commerçant fournissait 3 boîtes de médicaments et il en facturait 5. Il fournissait ainsi des documents falsifiés. Et puis la présidence de Rennes 2 envisage de proposer des examens en ligne. Ce matin, elle a dû annuler les épreuves de fin d'année. Un groupe d'environ 300 personnes, dont une partie encagoulée, organisait le blocage des bâtiments où devaient se dérouler les épreuves.
France Info. France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Bernard.
Édition spéciale sur France Info car nous parlons de cette sélection annoncée par Didier Deschamps. Dans un instant, on sera avec nos consultants et également Jacques Vendroux, savoir qui seront ces 23 joueurs qui vont défendre le maillot des Bleus en Russie, entre le 14 juillet, entre le 14 juin et on espère jusqu'au 15 juillet. Alors comment ça se définit justement les rôles au sein d'une équipe? Par exemple, l'attaquant Antoine Griezmann qui sera sûrement sélectionné, peut-il prendre la tête de cette équipe, en être le leader? Eh bien, ça tombe bien, on lui a posé la question et on va l'écouter, Antoine Griezmann.
On est tous des leaders, après ça se fait naturellement, mais voilà, après je ne vais pas dire que je veux être le leader de l'équipe de France, non, je vais travailler pour l'équipe, je vais tout faire pour essayer de gagner des matchs, et après tactiquement, s'il y a des trucs à dire, bah, je le dirai comme je le fais ici.
Voilà, Antoine Griezmann. Alors, je vois autour de moi des gens qui font des mines étonnantes, des mains agitées. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'on vient de voir la sélection qui est Frédéric Piquion. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette sélection?
Non, mais il y a des surprises.
Qu'est-ce qu'il y a comme surprise?
Par exemple, Adrien Rabiot qui n'est pas dans la liste.
Ouais. Et ça, c'était annoncé à la base, on pensait qu'il serait lui.
Ça fait un petit moment qu'il était dedans. C'est vrai que sa saison n'a pas été extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, mais. Je pense qu'il a pêché surtout sur le mois d'octobre, sa dernière sélection qui n'a pas été extraordinaire.
Ouais.
Et puis,
Il est remplaçant, Rabiot. Hein.
Ouais.
Il y a quand même Steven Nzonzi aussi,
ouais.
Qui est dans la liste.
D'accord.
Donc, qui est rentré il n'y a pas si longtemps que ça dans cette équipe. Non, c'est vrai que il y a...
Quelques surprises.
Quelques surprises, bienvenue.
Et Vigo, pour vous aussi, quelques surprises bienvenues? Ou étonnant, vous sembliez faire une tête étrange.
Bienvenue Lucas Hernandez. Hein, on s'en parlait avec Alain juste avant de prendre l'antenne. Hein, pour moi, il est indiscutable et on l'a vu hier. Et justement, hier, il y a un joueur que vous n'avez pas vu.
Oui.
Mais qui Thauvin, est dans la liste, c'est Florian Thauvin, qui a été éteint par Hernandez hier pendant 90 minutes, mais on pense donc qu'il pourrait jouer contre des joueurs d'un plus faible niveau, donc qui pourrait exister le terrain en Coupe du Monde.
Et juste une chose, je viens de voir là à l'écran que Dimitri Payet était sélectionné, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas une grande connaissance du football, le fait qu'il ait été blessé hier, ça n'empêche pas?
Ça veut dire simplement qu'il a une blessure qui serait résorbable d'ici le début de la Coupe du Monde, tout
D'accord.
simplement.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'il y a les réservistes, mais il fera en tout cas il a une blessure qui devrait lui permettre de revenir dans 8 jours à peu près.
Jérôme Latin, quand vous avez vu justement cette sélection pour vous, il y a des surprises aussi agréables ou peut-être qui vous déçoivent?
Ah, ça dépend de qui on est supporter, parce que c'est souvent lié au club d'appartenance. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même Fekir et Tolisso qui sont... Alors Tolisso qui prend plus ou moins la place de Rabiot justement, parce que Tolisso a un profil que Deschamps apprécie. Et puis Fekir, qui a fait une très belle saison, et qui est sélectionné, formé à Lyon. Enfin, il est toujours à Lyon, même si son transfert est très probable cet été. Voilà, donc c'est deux éléments notables, en tout cas.
Ouais, Alain Giresse, sur cette sélection, de voir des gens, même Dimitri Payet, on pensait à un moment qu'il ne serait pas. D'autres, est-ce qu'il y a des surprises? Il y a des confirmations aussi?
Pour moi, la surprise aurait été qu'un joueur jamais appelé soit retenu. Or, ce n'est pas le cas. Tous les joueurs qui ont été... retenus ont déjà vécu avec le groupe. Je ne pense pas que Didier Deschamps voulait quelqu'un qui allait découvrir la grande compétition lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Alors après, on peut toujours après discuter, on va discuter, des garçons comme Martial, Coman, qui étaient blessés, on a parlé de Rabiot aussi, même sur les latéraux, avec le retour de Mendy, qui est en train de retrouver la forme. Voilà, il y aura toujours, mais il n'y avait pas... On ne peut pas dire que c'était une liste qui était facile à faire et qu'elle était évidente à faire.
Alors, Jacques Vendroux, vous allez nous donner justement la liste des 23, mais on va la donner, vous savez, dans un instant, parce que sinon, on ne va pas avoir assez de temps, parce que je pense que tout le monde va vouloir réagir. Valentina Clemente, pour vous, cette liste, est-ce qu'elle met la France? Alors, c'est une question toute simple, de Béotien, mais est-ce que ça veut dire ce soir que la France, aujourd'hui, peut être une équipe qui peut aller très loin en Coupe du Monde ou pas?
Il y a toute la qualité qu'il faut pour aller loin. Et là, je trouve qu'il y a un équilibre majeur dans le sens que dans les choix des champs, je trouve qu'au niveau du groupe, il a essayé de faire quelque chose vraiment composite dans le sens d'éviter les possibles. Je veux dire, un garçon comme Rabiot, c'est quelqu'un des top au niveau technique. Mais il manque encore des constances. Et souvent, on le voit au PSG où il choisit des fois ses matchs. Et je pense que Deschamps, il a voulu éviter vraiment ça. Il a voulu des gens engagés 100% et qui pouvaient compter pour tous les matchs.
Vigo, quand on voit aujourd'hui la jeunesse de cette équipe, est-ce que c'est un passage de relais entre finalement générationnel là?
Oui, mais on le voyait venir en même temps, hein, comme Alain l'a souligné, il n'y a aucun joueur qu'on n'ait pas déjà vu à plusieurs D'accord. reprises en équipe de France. Mais pour compléter ce que vient de dire Valentina, oui, bien sûr, la France fait partie, je dirais, du deuxième rideau des favoris, c'est-à-dire tout de suite après les habituels, hein, le Brésil, l'Allemagne, pas l'Italie, désolé,
non, hein, cette fois-ci, hein,
mais Brésil, Allemagne, Espagne, Argentine, premier voilà. rideau, et nous, on arrive tout de suite derrière, alors, et les outsiders, c'est les Belges.
Juste une rectification. Je me suis trompé, voilà, ça commence bien. Dimitri Payet donc n'est pas sélectionné, pardon. Voilà, en tout cas, voilà, il n'est pas sélectionné, c'est officiel. C'est moi qui me suis trompé. On va continuer à en parler. Voilà, le temps de me remettre un petit peu de cette sélection incroyable. On va continuer à parler de cette sélection ce soir, donc les 23 joueurs de Didier Deschamps dans un instant dans cette édition spéciale de France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on trouve des tutos pour tout. Des tutos pour faire les devoirs aux enfants sous hypnose, pour dompter un poisson rouge, pour tricoter un bonnet de bain. Mais alors si je pouvais trouver LE tuto pour profiter de plein de gigas à moindre prix, là, ça serait vraiment utile.
Ne cherchez plus. Chez SFR jusqu'au 28 mai, le forfait Power 50 gigas est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 24 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois.
En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette. Mustang, Les délices de Tokyo, Amnesia, La vie d'Adèle et de nombreux autres films sur arte.tv. Rendez-vous le 21 mai avec Inside Llewyn Davis des frères Coen, suivi des deux amis de Louis Garrel, et le 23 mai avec Le fils de Saul de Laszlo Nemes. À partir de 20h50 sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, ouverture permanente.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 280 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Ce sera agréable demain entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le sud de l'Alsace, pas mal de grisailles le matin. L'après-midi, ce sera plus variable avec de belles éclaircies. Encore un petit risque d'averse, surtout en montagne, parfois un coup de tonnerre sur les massifs de l'Est. Des Charentes et de la Bretagne vers les frontières du Nord, là le soleil aura largement l'avantage. Il faudra quand même patienter un peu plus de la Normandie et des Hauts-de-France vers la région parisienne. La grisaille se morcellera en cours de matinée. Il fera seulement 4 à 9 degrés au nord le matin, 9 à 14 au sud. L'après-midi, un peu comme aujourd'hui, 14 à 17 degrés près de la Manche, mais 18 à 25 ailleurs, 19 à Paris, Besançon, 22 à Nantes, 24 à Bordeaux et Grenoble et 25 à Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Didier Deschamps révèle la liste des footballeurs retenus pour la Coupe du Monde en Russie. Alors allons-y, dans les buts, Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. En défense, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Adil Rami, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy et Raphaël Varane. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi, Paul Pogba et Blaise Matuidi. Et comme attaquant, Florian Thauvin, Kylian Mbappé, Nabil Fekir, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et évidemment Antoine Griezmann. Vous noterez que Dimitri Payet n'y figure pas. Premier match des Bleus le 16 juin, ce sera contre l'Australie. Évidemment, par rapport à la journée de mobilisation maximale de lundi dernier, la grève à la SNCF demain sera moins suivie, mais les perturbations seront tout de même non négligeables avec par exemple un TGV sur deux en circulation. Anne-Laure Bouzige, vous nous présentez en détail ces prévisions de trafic.
À en croire la SNCF, le trafic prévu n'a jamais été aussi bon depuis le début de la grève des cheminots entamée début avril. Résultat, un peu plus d'un TGV sur deux en circulation avec des différences. Sur l'axe Est, 4 TGV sur 5 roulent. Sur l'axe Sud-Est, 3 TGV sur 5. Du mieux également pour les intercités. 2 sur 5 vont rouler alors qu'il n'y en avait qu'un sur 3 en circulation lundi. 2/3 des Ouigo rouleront et pour les TER en région, de fortes disparités entre les lignes. Seulement 1 train sur 4 entre Bordeaux et Marseille alors que 3 trains sur 5 rouleront entre Paris et Clermont ou encore Paris et Grandville. Pour les trains du quotidien, il y aura en moyenne un peu plus d'un RER sur deux, avec là aussi des différences. Sur les lignes A et B, un RER sur deux en circulation. Sur la ligne C, un RER sur trois. Et la ligne D, deux RER sur cinq. Il faudra également compter sur un Transilien sur deux en Île-de-France.
Anne-Laure Bouzige et la direction de la SNCF a fait savoir que 29 plaintes avaient été déposées pour des actes de malveillance en marge des actions de lundi dernier. Les étudiants de Rennes 2 passeront leurs examens de fin d'année en ligne. Les devoirs sur table, eux, sont annulés. Décision de la direction de l'université après que 300 personnes ont empêché les évaluations de ce matin. Une décision semblable a déjà été prise par l'université Lyon 2. L'ami strasbourgeois du tueur au couteau de samedi dernier à Paris était présenté ce soir à un juge et il sera sans doute mis en examen. L'expertise footballistique des informés se poursuit jusqu'à 21h. On retrouve tout de suite Jean-Mathieu Pernin.
France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Pernin.
Édition spéciale sur France Info. Alors vous le savez, normalement, dans les informés de France Info, on parle beaucoup de politique. Et là, c'est un petit peu de la politique aussi, mais on va dire de la politique en short, hein, ouais, puisqu'on parle des 23 noms annoncés par Didier Deschamps qui vont défendre les couleurs de la France à la Coupe du Monde en Russie qui commence donc le 14 juin prochain. Et eux, ils ne sont pas prêts à couper des oranges au vestiaire, hein, puisqu'au coup de sifflet, ils ont fait leur entrée sur le terrain de l'actualité. Et ce soir, autour de la table de France Info, nous trouvons le directeur des sports de Radio France, Jacques Vendroux, également nos consultants, Alain Giresse, Frédéric Piquionne, le président de TV5 Monde, Yves Bigot, Valentina Clemente, correspondante à Paris de Corriere dello Sport, et Jérôme Latta, rédacteur en chef des Cahiers du Football et auteur du blog Une balle dans le pied. Donc forcément, quand il y a eu 23 noms annoncés qui vont défendre les couleurs de la France, je me tourne vers Jacques Vendroux, puisque vous, vous les avez, ces 23 noms. Et alors, est-ce qu'il y a justement il y a des surprises ou il y a des choses qui vous ont... Étonnez-vous.
Non, il n'y a pas de surprise invraisemblable. Il y a toujours quelques incertitudes, et puis là, on a des confirmations. Donc, on va rappeler quand même. Il y a trois gardiens de but, Areola, Lloris et Mandanda. En défense, Hernandez, c'est une mini-surprise, voilà, on va dire ça comme ça. Kimpembe, qui est un super joueur. Mendy, moi, je suis un peu surpris par l'arrivée de Mendy, parce que il a été blessé longtemps, mais il doit revenir forcément en grande forme. En tout cas, Didier Deschamps est certainement bien renseigné. Pavard, le petit Benjamin Pavard, qui nous plaît à tous très bien autour de cette table. Rami, bien sûr, Adil Rami, qui profite du forfait de Koscielny, qui malheureusement peut pas faire cette Coupe du Monde. Sidibé, Omtiti et Varane. Varane qui sera le seul à ne pas être au rendez-vous de l'équipe de France, puisqu'il fait la finale de la Ligue des Champions avec le Real, et il retrouvera tout de suite après bien les joueurs. Milieu de terrain, Kanté, Matuidi, Nzonzi. Petite surprise quand même là aussi, hein, on est d'accord. Pogba, Tolisso, mini-surprise, allez, on va y aller. Dembélé, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé et Thauvin. Thauvin, c'est bien pour ce petit jeune. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une liste, pour la première fois très très longue, de 11 remplaçants. Sissoko, Zouma, Sako, Digne, Lacazette, Debuchy, Ben Yedder, Martial, Coman, Costil, c'est le quatrième gardien au cas où, et Rabiot. C'est beaucoup.
Mais on dirait un inventaire à la Prévert, véritablement. Jacques Vendroux, quand vous le dites comme ça, mais oui, il faut un peu de poésie.
Il
ne
faut pas exagérer.
Mais ça montre la richesse de cette équipe de France. Je veux dire, la liste des réservistes, déjà, il y a beaucoup qui y étaient là.
Ce qui est important, c'est que tous les joueurs, à partir de mercredi prochain, le 23 mai, ils sont tous réunis à Clairefontaine. Donc déjà, c'est un immense groupe, et comme le dit Frédéric Piquionne, sans Varane, bien sûr, comme le dit Frédéric, ça va être quand même un peu compliqué à gérer, non ?
Pourquoi ? Compliqué à gérer ?
Non, enfin, ce qui va être compliqué à gérer, c'est surtout la frustration des joueurs pas retenus, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas dans la liste des 23, mais il va falloir quand même faire les efforts. On est déjà en vacances, le dernier match c'est ce week-end. Ouais. Il faut quand même faire des efforts, il faut quand même rassurer les coéquipiers, il faut leur donner de la force.
Et parfois, sur
certains caractères, ça peut être très difficile.
Il y en a 10.
C'est pas beau, mais ils espèrent forcément qu'il y en a un qui va se blesser.
C'est vrai. Jérôme Latin.
Oui, puis c'est toujours une formule qui est mieux que l'exclusion de gens qui sont emmenés au début du stage à Clairefontaine, comme ça avait été le cas par le passé. Mais moi, on parle de changement. Je voudrais souligner un petit peu la continuité. Il y a 7 joueurs qui ont été dans les 3 dernières listes des 23 pour la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016. Et donc,
c'est pas tous des nouveaux. en effet, il y a quelques piliers.
Il y a un petit peu une ossature, oui. Alors, c'est Lloris et Mandanda, les deux gardiens. Matuidi, Pogba, au milieu de terrain. Giroud et Griezmann, les deux attaquants, auxquels on peut ajouter Varane, le défenseur. Mais Varane, il avait été appelé à l'Euro 2016, mais il s'était blessé juste avant la compétition, donc il n'y avait pas participé. Ouais.
Une chose, hein, Giroud, pour être précis pour tous ceux, voilà, comme ça, ça nous permettra à tous de bien suivre cette Coupe du Monde hein, entièrement. Il y a des réservistes. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi un réserviste, en fait?
Si on parle des 11.
Ouais, non, c'est quoi ces gens?
Les 11, ils sont en attente.
En attente de quoi alors?
C'est
quoi?
Malheureusement, d'une blessure.
Une blessure, d'accord.
Une blessure. C'est la seule possibilité qu'ils ont que de pouvoir intégrer le groupe des 23.
Et ils sont avec les autres quand même jusqu'à.
Non, sincèrement, c'est très compliqué.
Psychologiquement, c'est.
Écoutez, moi, j'ai été confronté à ça, puisqu'entraîneur national.
Bien sûr.
À faire des listes de 23 et amener d'autres joueurs à qui je vais dire maintenant vous rentrez. Et c'est franchement, sur le plan moral, c'est pas évident.
Et au sein du groupe, est-ce que ça crée pas une fracture aussi? Est-ce qu'il y en a pas, voilà, l'ambiance?
Je peux vous dire que quand il va y avoir le soir les soirées d'un repas un petit peu animé, je peux pas dire que ces joueurs là sont dans le même état d'esprit que ceux qui sont officiellement dans les 23.
C'est humain.
Franchement, c'est humain. Vous pouvez pas dire que je me contente d'être dans les 11 suppléants et d'attendre que mon tour vienne.
Il y a juste une chose à souligner aussi dans l'historique, c'est Lacazette qui est pour la troisième fois consécutive dans la liste des réservistes. Donc s'il n'est à nouveau pas sélectionné, il va vraiment avoir une histoire très cruelle avec l'équipe de France.
Voilà un exemple, effectivement.
Dans les réservistes, il y a aussi Debuchy qui allait à Saint-Etienne pour se retrouver. Finalement, dès qu'il était disparu des radars, voilà, il a fait une bonne mi-saison. Et là, c'est un prix, en quelque sorte, pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant.
Le 29 mai, on saura ces réservistes qui quittent le groupe. Juste Frédéric Péquien, on imagine donc cette tension qu'il peut y avoir actuellement. Les gens sont contents. On a vu des images tout à l'heure. Ouais. Certains sont contents. Ces réservistes qui attendent, mine de rien, même s'ils ne sont pas sélectionnés, ces réservistes, j'imagine que le 29 mai, il y a une colère, mais peut-être un soulagement aussi, à un moment de plus attendre. Non, ça doit être.
Le soulagement, il est très décevant. Très relative, parce qu'après. Oui. On part, c'est clair qu'on va partir en vacances. On a une multitude de personnes qui vont nous appeler et envoyer des messages de soutien, forcément.
C'est ça qui
fait mal. Et après, faut juste rebondir, oublier un petit peu cette déception et rebondir pour la saison prochaine pour faire partie de cette équipe de France dans la durée.
Une chose, Alain Giresse, si quelqu'un se blesse, si un joueur se blesse et si son remplaçant se blesse aussi en équipe de France.
Il y en a 11.
Pour l'Euro 2016, Rami avait été rappelé alors qu'il n'était pas dans la liste des réservistes. Oui. Quoi. Il y avait eu un peu d'improvisation.
D'accord, donc il y a des choses possibles. Voilà,
Il avait fini titulaire. Il venait de nulle part.
Allez, on va en continuer à en parler dans un instant. Et on va parler également de cette Coupe du Monde qui arrive bientôt. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
23 noms pour la Russie, Didier Deschamps republie sa liste pour la Coupe du Monde qui commencera mi-juin. Des Bleus avec Thauvin et Fekir, mais sans Dimitri Payet. Le capitaine marseillais se remet toujours de sa blessure. Premier match le 16 juin, ce sera contre l'Australie. Nous débriefons ses choix jusqu'à 21h dans cette édition spéciale sur France Info. Le procureur de Paris, François Molins, précise ce soir les conditions de l'attaque mortelle de samedi dernier, quartier de l'Opéra à Paris. La victime avait une plaie qui correspond à une tentative d'égorgement. L'assaillant a blessé 3 personnes avant d'être abattu. 2 jeunes femmes proches de ce terroriste ont été interpellées aujourd'hui en région parisienne. 6 arrestations à Marseille, 2 ans après le meurtre d'un adolescent. Le jeune de 15 ans avait été abattu de 2 balles, dont une dans la tête. C'était en novembre 2016. Il avait ensuite été ligoté et en partie brûlé. L'adolescent était connu de la justice pour des affaires de drogue. Emmanuel Macron condamne des actes odieux commis par Israël dans la bande de Gaza. Une 60aine de morts, principalement lundi dernier. À l'issue du sommet de Sofia, le chef de l'État appelle à la même retenue les Palestiniens. Il les appelle à des manifestations pacifiques et condamne les récents propos du Hamas et d'autres sur une mise en danger d'Israël. Et puis il était le compositeur de Ne me quitte pas, immortalisé par Jacques Brel. La mort à 85 ans de Gérard Joannest, ce pianiste était l'époux de la chanteuse Juliette Gréco. Il lui avait d'ailleurs écrit une centaine de mélodies.
France Info.
France Info. Édition spéciale. Jean-Mathieu Bernard.
Édition spéciale sur France Info. À cette heure-ci, on a plus l'habitude de débriefer des soirées électorales. Là, on va débriefer une soirée foot avec la liste de l'annonce des 23 qui vont donc participer à cette Coupe du Monde pour la France. Cette Coupe du Monde, je vous le rappelle, sera en Russie. Ça commencera donc le 14 juin jusqu'au 15 juillet. Là, le programme de l'équipe de France, ça sera déjà 3 matchs amicaux. Ça sera le 28 mai prochain, on jouera contre l'air. Ensuite, le 1er juin contre l'Italie. Et ensuite, le 9 juin contre les États-Unis. Alain Giresse, est-ce qu'ils sont importants ces matchs-là à venir, les trois matchs?
Ils ont leur importance, effectivement, de passer au travail de d'entraînement, évidemment, se retrouver l'équipe, retrouver le collectif.
Et vous me disiez que vous, en tant que joueur, vous n'aimiez pas
non.
trop. Hein,
ça. Non.
Pourquoi?
Parce qu'on a l'impression que c'est déjà la compétition, parce que ce sont des équipes nationales, que quelque part, on se dit, il ne faut pas les perdre, mais en même temps, ils n'ont pas d'importance en termes de résultats. Nous, en 82, on a perdu. En 86, on n'a pas fait de bons matchs de préparation. Et on est allé très loin dans la Coupe du Monde.
Oui, ah, nous,
non, je voulais juste ajouter que, vu qu'il y a l'Italie qui n'est pas de la compétition, mais il va débuter un cycle parce qu'il vient d'avoir Mancini comme sélectionneur. Donc ça va être très important et très intéressant, je pense, comme confrontation pour la France. Parce que aussi, si l'Italie n'est pas engagée, c'est quand même le début d'un nouveau cycle. Donc ça va être intéressant, la confrontation qu'on va avoir à Nice.
Jacques Vendroux, vous, parmi les différentes Coupes du Monde que vous avez pu suivre, est-ce que ça vous intéresse justement ces matchs de préparation? Est-ce que ça vous permet vraiment d'avoir des informations sur l'équipe?
Ah, moi, j'adore. Alors, moi, moi, je vous dis franchement, les matchs de préparation de phase finale de Coupe du Monde, c'est vous y êtes déjà. C'est-à-dire que vous êtes dans le film. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 23 joueurs qui vont être tenus. Enfin, il y en a d'abord 35, après 23.
Ça permet d'avoir des infos déjà, ou pas, sur les tactiques ou des choses comme ça? Oui.
En tant que commentateur, ou je veux dire, évidemment, vous avez des infos, parce que forcément, dans les trois matchs, vous l'avez dit, contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis, Didier Deschamps va essayer, peut-être pas de faire jouer l'équipe type, mais en tous les cas, une équipe qui va ressembler le plus possible au premier match que l'équipe de France va disputer le 16 juin contre l'Australie. Donc ces matchs-là nous servent de repères, en tous les cas, sur le plan professionnel.
Alain Giresse.
Oui, mais Si Jacques, je suis très content que tu aies pris beaucoup de plaisir à nous regarder jouer, mais
pas beaucoup apparemment.
Non, mais ce que je veux dire,
c'est important journalistiquement.
Oui, bien sûr, mais
vous avez dû raconter des bêtises.
Vous ne pensez jamais assez aux journalistes que vous êtes sur le terrain.
On parlait. Jacques dit il va commencer à mettre en place son équipe. Mais quelle est l'équipe type de l'équipe de France aujourd'hui? Quelle est véritablement l'équipe? Il y a ces matchs-là donc vont servir aussi d'étalonnement par rapport à certains joueurs. Il va pas falloir qu'ils déçoivent, on va dire, parce que s'il y a un joueur ou deux, regardez un garçon comme Thauvin qui finit la saison assez fatigué.
Oui, fatigué. Et oui,
fatigué, oui. Il a besoin de se régénérer, de se ressourcer. Donc s'il est aligné, qu'il est moins bien, on va dire, mais il est pas bien, quoi. Il y a comme ça quand vous avez une sélection, et c'était le cas pour nous en 86, on pouvait faire des matchs amicaux. On connaissait déjà la composition d'équipe à un joueur près qui allait démarrer le premier match.
Oui,
quelle que soit la nature des matchs amicaux. Ils étaient faits pour nous remettre dans le bain sur le plan collectif et non pas de ne pas chercher l'équipe type. Aujourd'hui, ici, on va faire chacun une équipe type qui ne sera jamais la même, qui ne sera pas du tout la même.
Oui, mais on connaissait tous les joueurs.
Ces matchs de préparation, finalement, qu'on les gagne, qu'on les perde, c'est pas ça le principe, en fait.
Il vaut mieux les perdre, même.
Ah, d'accord.
Parce que si on les gagne, on se voit trop beau. Vous avez des équipes, quand même, juste après les matchs amicaux, ils vous disent on a gagné la Coupe du Monde.
D'accord.
Donc, il faut faire attention. Souvenez-vous de 2002 pour l'équipe de France.
On
avait déjà l'étoile supplémentaire.
On avait perdu contre la Belgique. L'équipe de France avait perdu juste ça. Avant la Coupe du Monde.
Mais il ne faut pas se voir trop beau. Le danger, c'est évidemment la blessure d'un joueur clé, parce que ça, c'est vraiment bêta, mais ça peut toujours arriver. Regardez ce qui est arrivé à Dani Alves en finale de la Coupe de France.
Ouais.
Ce que je trouve intéressant, là en l'occurrence, dans ces trois confrontations, non seulement c'est que c'est trois styles évidemment très différents, donc ça prépare bien au style de jeu qu'on va rencontrer. Et le plus intéressant, évidemment, c'est de jouer la nationale. La squadra de jouer
l'Italie.
Non, mais de jouer
parce qu'il y a
équipe.
Un côté aussi d'un intérêt aussi de notre côté, parce
bien
que
sûr.
C'est un nouveau cycle qui s'ouvre.
Alors,
donc
moi je vais donner juste un conseil, mais Didier Deschamps il connaît très très bien les Italiens, c'est de vous laisser gagner surtout. Faut pas chercher à gagner ce match là parce que un non, ça servira à rien, et deux on risque que de prendre des coups.
Et non, mais on parlait tout à l'heure du groupe,
oui,
qui est quand même extrêmement important. Heureusement qu'il y a des matchs. ça leur permet de sortir de Clairefontaine, parce que quand vous restez 3 semaines à Clairefontaine, à écouter les mêmes oiseaux tous les matins, à voir les mêmes tables de massage, le même cuisinier, etc., au bout d'un moment, il y a peut-être un petit coup de déprime. Donc là, vous allez prendre l'avion, vous allez aller au Stade de France, c'est pas très loin.
Bref, on les prend
après,
même, quoi, en fait.
Après, vous allez à Nice, ce qui est pas désagréable. Après, vous allez à Lyon, ce qui n'est pas désagréable. Et après, vous partez en Russie. Donc, je dis pas que c'est une porte de sortie.
C'est ce qui est pas forcément terrible.
Non, mais c'est une porte de sortie par rapport à rester cloîtré. Alors, à Clairefontaine.
Une chose, Jérôme Latta, forcément, le match qu'on attend tous, ça sera le 16 juin, ça sera le premier match, c'est celui face à l'Australie. Est-ce que cette poule, on va jouer également contre le Pérou et le Danemark, est-ce que c'est une poule facile?
Alors ça, on ne le sait qu'à la fin. Parce que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de fois où on a dit qu'on avait une poule facile, comme en 2010, et qui s'est avérée extrêmement compliquée, ou dont on est tout simplement aussi pas sorti, ou en 2002, ouais, évidemment. C'est donc, ouais. Alors, la difficulté, c'est que c'est des adversaires qu'on connaît pas bien.
Notamment le Pérou et l'Australie,
voilà,
c'est ça?
Voilà. Et il va pas falloir les sous-estimer, parce qu'en plus, il y a une sorte de dynamique durant les Coupes du Monde qui fait que des sélections qu'on croit modestes arrivent à former un groupe, ont une réussite tactique, collective, etc., qui fait qu'elles sont très difficiles à jouer. Et qu'elles peuvent être très performantes, y compris contre des grosses équipes qui sont programmées pour monter en régime un petit peu plus tard.
Oui, c'est ça, Frédéric Piquion, ça peut être un piège finalement aussi, quand on voit des équipes au départ, on se dit bon, l'Australie qu'on ne connaît pas véritablement, comme le Pérou, ça peut être un piège, ces équipes-là?
Il y a toujours dans ce genre d'équipe un ou deux joueurs qui ressortent du lot. Et souvent, ils arrivent à porter leur équipe à un certain niveau pour embêter les fortes nations. Mmh. On se rappelle de ce match France-Sénégal en 2002.
En ouverture, je crois que c'est ça. C'était l'ouverture de la Coupe du Monde.
En ouverture, on a tapé les poteaux et finalement, on a perdu contre une équipe qui normalement était largement à notre portée. Mais on l'a perdu. Donc, il faut toujours se méfier. Un match n'est jamais gagné d'avance, il n'est jamais perdu d'avance. Mais il faut toujours être sur la vigilance.
Non, je parle de l'expérience de l'Italie, justement, oui, dans la Coupe du Monde. Quand on me demandait au mois de février, qu'est-ce que va faire l'Italie? Il va gagner avec son groupe, c'est facile. Il y a la Costa Rica qui, ça vient de personne. On sait qu'est-ce qu'il a fait la Costa Rica après. Je veux dire, il a gagné notre poule. L'Italie, elle est sortie. Et voilà, il faut toujours se méfier, surtout dans des équipes où on n'est pas habitué au style de jeu. Donc, il faut faire très attention. Il faut dire. Ouais. Concentré.
Ivigo, Poulier.
Là où il faut juste faire attention, c'est que l'Australie, ça sera leur premier match. Donc, ils ne sont pas encore éliminés à ce moment-là. Mmh. Ils le jouent à fond. Physiquement, ils sont super affûtés. Oui.
Donc, l'Australien est costaud.
C'est plus dangereux de les prendre en premier match qu'en troisième, quand ils sont théoriquement déjà éliminés. Ouais,
fatigués.
Voilà, et déjà fatigués. Le Pérou. Pardon, mais une équipe sud-américaine, on n'est jamais sûr de la battre.
Ouais.
C'est, voilà. Dites-vous un truc, c'est qu'ils se sont qualifiés.
Hein. Ouais, c'est ça.
Donc s'ils se sont qualifiés...
Un beau parcours déjà.
Et ils sont dans les 5 meilleures équipes sud-américaines. Forcément, c'est du bon niveau. Et le Danemark, on a déjà eu des mauvaises surprises contre eux, je vous le rappelle, aussi en 2002.
Ouais, dites-moi, non, 2002, c'était terrible.
Il a raison. Très rapidement. L'embrouille, elle peut arriver très vite. Hein.
Ouais.
Vous faites un match nul, limite contre l'Australie. Vous faites un deuxième match contre le Pérou. Compliqué, je veux dire, vous avez 2 points après 2 matchs en poule, vous pouvez, j'y pas passer à la trappe, mais vous pouvez passer deuxième et vous retrouver dans une situation très compliquée. Allez, pour les 8e de finale.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant.
Mais j'y crois pas.
L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Florian Thauvin, le Marseillais, Nabil Fekir, le Lyonnais, retenu dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde de foot, tout comme Corentin Tolisso. D'ailleurs, le jeune footballeur se dit ce soir très heureux et très fier. Didier Deschamps, en revanche, ne retient pas le capitaine de Marseille, Dimitri Payet, dans cette liste. Il se remet toujours de sa blessure. Deux jeunes femmes proches de l'assaillant du quartier de l'Opéra ont été interpellées aujourd'hui en région parisienne. Kamzat Azimov, abattu samedi dernier après avoir tué un passant et blessé 3 autres. Le procureur de Paris, François Molins, donne des précisions ce soir. Le piéton assassiné présente une plaie compatible avec une tentative d'égorgement. Un ami du terroriste doit être mis en examen ce soir après son interpellation dans la région de Strasbourg. Le détenu fiché S et évadé à Brest est toujours introuvable. Ce détenu de 21
21 ans, a réussi hier à profiter de son transfert à l'hôpital pour s'évader. Mais le propriétaire de la voiture qu'il a récupérée a été mis en examen ce soir pour complicité d'évasion. Il est écroué. Il s'était lui-même rendu à la police dès hier soir. Une deuxième vague d'expulsion depuis ce matin sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Un mois après les premiers départs sous haute protection des forces de l'ordre, les représentants de l'État évacuent les derniers zadistes qui n'ont pas proposé de projet de régularisation auprès de la préfecture de Loire-Atlantique.
France Info.
France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Bernin.
Et oui, France Info, édition spéciale, suite à l'annonce par Didier Deschamps, donc des noms des 23 joueurs qui vont défendre le maillot des Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie. Donc d'ailleurs, pour tout savoir sur cette Coupe du Monde, il y a une chose qui est très importante, sachez qu'il y a une mascotte forcément, et la mascotte de cette Coupe du Monde s'appelle Zabivaka, et voilà ce qui signifie en russe celui qui marque, et c'est un nom tout à fait adapté, donc c'est un loup qui irradie la bonne humeur, la séduction et la confiance, mais surtout c'est un loup qui porte des lunettes. Bon voilà, alors ça doit être le seul au monde. Donc en tout cas, il faut être méfiant. Une chose à propos de cette Coupe du Monde, Alain Giresse, est-ce que la Russie, bon, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas du tout favorite dans cette Coupe du Monde, mais quand on organise une Coupe du Monde, est-ce que ça aide? On a vu quand même, notamment lorsque c'était organisé en Corée du Sud et Japon, la Corée du Sud allait très loin, alors que souvent elle est éliminée au premier tour. Est-ce que ça porte davantage d'organiser une Coupe du Monde?
Ah oui, ça aide, oui, il y a tout un peuple derrière, c'est particulier de jouer à domicile, effectivement, ça peut aider. Pas pour la Russie d'aller soulever le trophée, ouais. Mais peut-être les aider à sortir du premier groupe, ce qui serait déjà pas mal pour le niveau de cette équipe actuellement.
Oui, Jacques Vendroux, pour vous, aujourd'hui, cette Coupe du Monde, alors on sait que ça sera la Coupe du Monde peut-être la plus chère de l'histoire, parce qu'on parle de d'organisation de 13 milliards peut-être de dollars autour. On sent que c'est un événement important pour le pouvoir aussi russe. Mais quand on organise cette Coupe du Monde, quand on organise une Coupe du Monde, on est davantage motivé?
Bah, une Coupe du Monde, c'est le rêve. Vous savez, ouais. J'écoutais tout à l'heure Yves ou Frédéric ou Alain, ou enfin tout le monde. Je veux dire, quand vous êtes gamin, vous voulez devenir un joueur titulaire dans l'équipe minime. Après, vous voulez devenir titulaire dans l'équipe de promotion d'honneur de votre village. Après, vous voulez devenir joueur de national, de troisième division. Après, vous voulez devenir première division. Après, vous voulez devenir international, jouer dans un club pro. Après, vous voulez devenir international. C'est vrai ou faux, Frédéric?
Oui.
Il y a des rêves à étage. Ouais. Et puis après, vous rêvez de faire une Coupe du Monde de football.
Après,
tout le monde
de...
autour de cette table a envie de jouer, excepté Alain, de faire une Coupe du Monde de football.
Et après, on rêve d'être aux variétés.
Oui, ouais, d'accord.
Juste
un petit mot avec vous, rapidement, avec vous, Yves Bigot, parce qu'il y a un petit côté aussi politique, géopolitique. Là, on voit que ça peut aussi dépasser le sport quand on connaît ce qui se passe en ce moment. En Russie, c'est quand même particulier. On sait qu'il n'y aura pas de représentation diplomatique anglaise. Par exemple, ils ont refusé de venir. On sent quand même qu'il peut y avoir une tension. Le premier match, c'est Russie-Arabie Saoudite. Donc ça, déjà,
ça
casse.
C'est
un moment aussi important pour le pouvoir en place, là.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut montrer la capacité à organiser. Mais ça, on n'a aucun doute sur la capacité des Russes d'organiser une Coupe du Monde et que ça se passe bien. Et en particulier au niveau de la sécurité. D'ailleurs, on l'a vu lors des Jeux Olympiques à Sochi. Hein.
Parce qu'on sait qu'il y a quand même quelques hooligans. On se souvient de l'Euro en France, à Marseille, notamment la bagarre entre des hooligans russes et anglais.
Oui, mais là, c'était la France qui faisait la sécurité, Jean-Mathieu. Donc là, ça va être les Russes, ils sont chez eux. Donc d'accord. Je pense que leurs hooligans, en fait, ils ne sortiront que si on leur demande de sortir. Mais autrement, ils seront tenus.
Non, il faudra regarder surtout dans les côtés des champs racistes, tout comme ça, qu'on a vu avec l'équipe de France aussi, quand ils sont allés jouer là-bas. Donc, il y a plusieurs côtés qu'il faut prendre en compte. C'est clair que les grands événements, aujourd'hui, ça joue aussi au niveau politique, international. Et ça, c'est un banc des preuves très important.
Très rapidement pour terminer, Jérôme Lataille, il y a 32 équipes. Il y a des petits nouveaux comme l'Islande ou le Panama. Mais, alors, vu de loin, on a toujours l'impression de retrouver les mêmes à la fin. C'est l'Allemagne, c'est un peu comme, vous savez, au Festival de Cannes, les frères Dardenne, c'est toujours eux qui gagnent, en fait, à la fin. Finalement, on ne retrouve pas toujours les mêmes d'un moment, toujours au final, en demi-finale, quart de finale, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, c'est un peu toujours les mêmes, non?
Oui, il y a une espèce d'aristocratie des grandes sélections. Donc, il y a assez peu de nouveaux vainqueurs, mais on a quand même vu l'Espagne récemment comme nouveau vainqueur.
Et la France.
Et la France en 98. Ouais. Donc, il peut y avoir une nouvelle donne au cours de cette Coupe du Monde, mais il y a quand même des chances que ce soit parmi les multiples vainqueurs de la Coupe du
Monde. Alain Giresse.
Oui, C'est vrai qu'on a cité l'Espagne.
L'Espagne et la France.
C'est normal qu'elle veuille se joindre à tous les autres vainqueurs. Mais maintenant, pour tout d'un coup avoir une équipe inattendue qui va décrocher ce titre, je ne crois pas.
La Belgique, ouais. Pourquoi pas?
Donc pas l'Islande,
d'après moi. Écoutez bien, moi je crois à la Belgique.
Ah, très bien, et bien écoutez, c'est noté.
Moi aussi,
ben voilà.
Allez le diable.
On va
allez,
supporter de la Belgique.
Cette édition spéciale, ça va se terminer. Bien merci messieurs, parce que mademoiselle, parce que j'ai tout compris, en tout cas, voilà, donc c'était formidable. Donc merci beaucoup à vous, Jacques Vendroux. Merci Frédéric Piquion, Alain Giresse également, merci à Yves Bigot, bien sûr. Merci Valentina Clemente, et merci beaucoup Jérôme Latta. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des Cahiers
oui,
du Football.
Si je peux dire un petit mot, on sort une revue le 31 mai, voilà, une belle revue, nouvelle. Premier numéro
sur,
à donc, découvrir en librairie le 31 mai.